C'est les performances à qui les entreprises du monde entier confient leurs services clients à visiter de nouveaux plus hauts historiques. C'était Marjorie Ancelot d'Investir pour RFI.
Merci Marjorie. Un dernier mot pour vous dire que comme cela a été attendu, Gérard Larcher a été réélu ce jeudi haut la main pour un quatrième mandat à la présidence du Sénat où la majorité de droite et du centre, je vous le rappelle, est sortie confortée des élections sénatoriales qui avaient lieu dimanche. Merci d'avoir suivi ce journal sur RFI. Dans quelques secondes, 18h10 à Paris.
Radio G. 101.5 FM.
Et bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio G et c'est maintenant l'heure de retrouver l'oreille curieuse, votre quotidienne culturelle et locale. Nous sommes jeudi et cela faisait une éternité que vous n'aviez pas entendu sa voix. C'est le retour de Margot qui vient de faire son retour à l'instant dans le studio. On va retrouver sa chronique cinéma d'étoiles plein les yeux, rendez-vous en deuxième partie d'émission. Et ce soir, c'est une émission 100% cinéma finalement, puisque nous découvrirons ensemble le prochain cycle de Ciné-Légende. Il débute demain et se termine le 22 octobre et il a pour titre « Habiter la forêt ». On en parle dans quelques minutes. Derrière le micro, aujourd'hui et comme hier, c'est Anne-Lie et la citation que j'ai choisie pour vous aujourd'hui est de Sophocle, carrément, qui nous dit « Tout est bruit pour qui a peur ». Voilà pour ce soir. Et bien sûr, on débute cette émission en musique, avant de parler de ciné-légende, et on va écouter Alice et moi, j'en ai rien à faire.
J'ai pas le temps, on me mate dans le mélange.
Nous allons maintenant parler de cinéma et je reçois Philippe Parrain, président de l'association Ciné Légende. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio.
C'est un plaisir.
Alors je le disais, la prochaine programmation Habiter la forêt débute demain et se termine le 22 octobre. Avant de parler plus en détail de ce que vous avez choisi de diffuser, de proposer dans ce cycle, peut-être revenir en quelques mots sur votre association Ciné Légende. Le principe, c'est de travailler autour de cette idée de légende, d'histoire, de mythe qui nous traverse tous
et
avec
le cinéma.
Ouais. Vous avez envie de compléter, de rajouter
non,
des éléments?
Disons, on existe depuis 2006, là, on est sur Angers, donc on organise des manifestations régulièrement pour essayer, autour d'un thème, de voir comment le cinéma peut pérenniser d'anciens mythes, d'anciennes légendes. Voilà, c'est l'idée.
Mmh. Avec bien sûr des projections de films, mais aussi des conférences, des ateliers. Il y a plein de choses qui se passent à chaque fois. Alors, pour cette saison 2020-2021, vous avez choisi le thème « Habiter la nature », le lien entre l'humain et cette nature.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pourquoi vous avez choisi ou comment ce thème-là s'est imposé?
Disons, on est toujours en quête de thèmes. Là, ça nous a semblé intéressant et d'actualité, ce rapport de l'homme et de la nature. On en parle beaucoup et voilà, donc on va décliner ça en différents thèmes. Là, on parle de la forêt, donc de la nature primitive, dans son état naturel, entre guillemets. Après, on va sauter de l'autre côté pour parler de la terre dévastée, en se basant sur La terre outragée, le film qui raconte Tchernobyl. Donc, c'est dire qu'on n'est plus dans la forêt idéale.
Ouais, ça, ce sera la terre dévastée. Ce sera en décembre.
Ce sera en décembre. Et ensuite, on parlera de cultiver les champs, et puis des jardins d'agrément. Voilà, en février et en avril.
On finit sur des notes plutôt plus positives sur ce cycle.
Et puis un peu adapté à la saison, terminée par les jardins en avril, c'était pas mal.
Et le but, c'est que chacun de ces cycles complète la thématique et les regards qu'on peut lui apporter.
Voilà.
Par rapport à cette idée de habiter la nature pour les humains, il y a plein d'approches qui peuvent exister. Il y a des personnes qui envisagent les humains comme complètement extérieurs à la nature, d'autres qui disent non, c'est pas des choses séparées. Est-ce que vous avez choisi un point de vue?
A priori, je dirais qu'on n'a pas de point de vue, mais il y en a quand même un qui s'exprime dans notre première manifestation, Habiter la forêt, qui se base sur le film
Les
Trente du Serpent, qui se passe en Amazonie, et on rejoint la pensée de Philippe Descola, qui est un élève de Lévi-Strauss, qui exprime la nature comme un tout et que les hommes ont des liens avec les animaux, avec les plantes, un lien affectif et de dialogue quasiment, et qui exprime ce que vivent les tribus, et que vivaient surtout les tribus en Amazonie.
Donc L'étreinte du serpent, ça a été réalisé par Quiro Guerra, un réalisateur colombien. Oui. On pourra voir le film le 6 octobre, c'est mardi prochain à 20h au 400 coups. Vous le disiez, on va vraiment plonger au cœur de la forêt amazonienne dans ce film-là. On va suivre plusieurs personnages. Alors il y a Karama Kate, mais aussi Théo, puis Evan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire ou les histoires?
C'est déjà un film qui est réalisé par un Colombien qui n'est pas du tout indien, mais il donne le point de vue de la mer indienne. C'est un peu une démarche originale. C'est vu de l'autre côté de l'habitant de la forêt.
Ce qu'il disait, c'est que finalement, ce point de vue de personnes vivant dans la forêt était très peu présent dans les films, et les films colombiens. C'était souvent l'explorateur
qui découvrait,
européen, occidental,
la forêt d'Émeraude. On est à la recherche d'un enfant dans la forêt qui s'est intégré dans la société amérindienne, mais c'est quand même, on suit le personnage occidental. Tandis que là, vraiment, c'est donc ce personnage qui a perdu toute mémoire. Enfin, il a été séparé de son peuple. Il croit qu'il est complètement le peuple n'existe plus, décimé par les Espagnols et les exploiteurs de caoutchouc. Et donc, il est vide de lui-même et il rencontre
un botaniste, je crois.
Un explorateur allemand qui est très malade et qu'il finit par accepter d'aider avec des plantes locales, donc dont il connaît le secret. Et donc l'explorateur en question veut trouver une certaine fleur qui, paraît-il, a des vertus extraordinaires en faisant rêver. Mmh. Et donc il s'en va à la recherche de cette fleur avec l'Indien. Et en même temps, on revit.
En fait, tout le film repose aussi sur différentes temporalités.
Voilà. Ça se projette dans une autre balade du même Indien, 40 ans plus tôt, qui rencontre un autre explorateur. Tous les 40 ans plus tard.
En tout cas, mais c'est aussi le principe du film de nous troubler.
C'est le temps cyclique, finalement, on est toujours dans une temporalité parallèle.
Ouais, avec
donc il y a deux voyages avec deux explorateurs, un Allemand donc, et un qui est malade et qui a du mal à vivre. Et on recommence avec un Américain qui, lui, est beaucoup plus intéressé, qui un projet, enfin, qui ne dit pas, mais qui cherche la fleur pour valoriser le caoutchouc, l'exploitation du caoutchouc.
Oui.
Donc, il y a deux démarches différentes qui se rejoignent et une initiation qui aboutit finalement à la découverte du rêve.
Ouais, et c'est aussi le principe du film de mélanger toutes ces temporalités, de nous. Finalement, il y a un temps sans temps. Il parle de ça aussi, le réalisateur, ou des temps simultanés. Enfin, j'imagine qu'on risque d'être un peu perdu dans les deux heures du film.
Faut prendre ses repères au début.
Prenez des notes.
C'est pas grave, on est emporté dans cette balade, dans une image en noir et blanc, ce qui est extraordinaire pour filmer l'Amazonie qui est supposée être très verte et avec plein de couleurs. Mais le réalisateur a trouvé que le cinéma n'arriverait pas à rendre cette valeur colorée. Et donc il a fait un noir et blanc, mais un noir et blanc superbe. C'est vraiment une image extraordinaire qui ne fait pas du tout regretter d'en voir davantage, parce qu'il y a toutes les nuances, il y a des contrastes, c'est vraiment une très belle image.
En tout cas, c'est vrai que c'est un choix singulier pour filmer la forêt,
oui,
les animaux, les fleurs.
Mais qui s'avère positif.
Et on parle de légende, quand on parle des films choisis par Ciné Légende, est-ce que là, ce récit, vous le raccrochez à une légende? Alors peut-être qu'elle est méconnue, parce qu'elle n'est pas européenne
La légende, elle est existante dans le pays, c'est l'anaconda, le serpent qui a engendré un peu toute la forêt et qui vit dans le fleuve, dans la rivière. Et donc il y a cette présence du serpent qui on redécouvre par le rêve et qui est comme tout correspond, tout est lié et fait partie de la vie de personnages.
Oui, il n'y a pas de cloison entre les différentes formes
non.
de vie. Quoi. Et tout ce film aussi, L'étreinte du serpent, s'appuie aussi sur ses traditions, ses cultures, ses légendes amazoniennes. Donc ça peut aussi être...
Et sur des personnages réels également, en même temps. Les deux explorateurs ont existé. Et on fait ce voyage. Bon. C'est romancé, c'est pas... Ça ne se limite pas à la réalité du passé,
factuel,
mais c'est il y a un lien entre la réalité et puis le rêve, toujours.
Ouais, je vous propose d'écouter la bande-annonce, ou un extrait de la bande-annonce pour nous mettre dans l'ambiance de L'étreinte du serpent. Et ce sera le 6 octobre au 400 coups.
Tanyana Davi, Nukahenote, Iad, Pugobai Tanyan, Tanama Unubikaite, Tainan and the Kaite, Tanahapu.
Bon, je ne mets pas la bande-annonce en entier car j'ai peur qu'elle vous perde.
Oui.
Qu'il y a des, parce qu'elle est en plein
les langues. Vous n'avez pas compris la langue, sans doute.
Moi non plus.
Il y a quatre langues dans ce film, en fait, l'espagnol, un petit peu d'allemand et surtout deux langues indiennes. Parler là-bas.
Ouais, mais on sent quand même qu'il y a une certaine intensité, un certain mystère. Enfin là, dans l'atmosphère sonore, dans la musique, ça a l'air assez intense. Oui. L'étreinte du serpent. Je ne sais pas si vous confirmez ce sentiment. Et puis on sent aussi la forêt avec tout qui est à la fois lieu d'accueil, lieu vivant.
Et en même temps, c'est très calme par ailleurs. C'est une navigation. Enfin, la pirogue va sur le fleuve. C'est très calme en soi, mais voilà, c'est une danse.
Il y a des choses mystérieuses qui se déroulent.
Voilà, puis les rapports avec la réalité sociale également, parce que il rencontre une mission qui, 40 ans plus tard, s'est transformée en secte. Donc, il y a. Et puis, on parle de l'exploitation du caoutchouc aussi, qui a vraiment déséquilibré toute la société là-bas, quoi.
Ouais. Bon, on va pas tout dévoiler.
Il y a plusieurs niveaux, disons.
Et dans ce cycle avec Ciné Légende, donc pour Habiter la forêt, vous proposez aussi d'autres films. Il y a Rêve demain, qu'on pourra voir à Pai Pai, L'intelligence des arbres, donc plutôt un documentaire sur comment les arbres.
Le rapport avec les arbres.
Ouais, comment ils s'entraident aussi.
Oui, comment ils vivent, enfin, leur sensibilité, leur façon. Voilà.
Ouais. Et Princesse Mononoké, enfin,
qu'on
le
reprend,
22
oui,
octobre. Ouais.
Pour tout public cette fois-ci, mais avec une correspondance assez intéressante entre la vision des Japonais de la forêt et la vision colombienne, finalement, ce qui n'est pas sans intérêt.
Oui, ce qui est intéressant dans ces programmations, c'est de voir comment les films se répondent, voilà, les idées, que ce soit contradictoires ou non. Et il y a aussi une partie importante de cette programmation qui sont les conférences que vous organisez, qui permettent là d'aller encore plus loin.
Oui, de approfondir d'approfondir la thématique. Mm-hmm. Donc nous avons entre autres Vincent Herzl, qui est un élève de Philippe Descola dont je parlais tout à l'heure, donc qui est un peu connu, enfin qui est connu maintenant, mais pas tout le monde, qui est dans la théorie et justement le rapport entre la nature et les hommes.
Ouais.
Et puis voilà, on a une conférence également sur le légendaire avec Philippe Ratoui.
Oui, alors la conférence dont vous parliez juste précédemment avec Geoffroy Ratoui, c'est le... Oula, j'ai dit une bêtise.
Non, Vincent Herzl.
Oui, merci. Je me mélange dans mes notes, bah, si vous me pardonnez.
Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. En tout cas, avec Vincent Herzl, c'est mercredi prochain, à 18h30. Et effectivement, une terre et des hommes ou la nature primitive. C'est également une conférence qui aura lieu jeudi. En fait, si on veut tout suivre, on a intérêt à avoir un agenda. Faut s'accrocher. Et vendredi, demain, au 122, donc avec le tiers-lieu de l'association Pai Pai, c'est Autant en emporte les paysages, de Fabienne Joliet.
Enfin, c'est une intervention de Fabienne Joliet, qui est professeure à AgroCampus sur les paysages, avec le film, plus qu'en accompagnement, parce que c'est le plus important de la soirée, d'un côté, c'est le film de Kurosawa, un des derniers films de Kurosawa, Rêve, qui est une suite d'épisodes sur les rêves qu'il aurait fait, mais aussi en même temps, il y a une progression qui montre une évolution des paysages depuis la forêt légendaire, la forêt qui fait rêver, jusqu'à la nature qui est décimée par la guerre nucléaire, et pour terminer par un retour dans un village écologique parfait où tout est harmonieux.
Ouais, et c'est construit, oui, en huit
séquences qui parlent presque toutes de paysages et les cerisiers en fleurs, bien sûr. C'est très japonais.
Okay.
Et très beau.
Ouais, donc ça c'est demain, faut bien noter. Philippe, est-ce qu'on a oublié des choses fondamentales sur ce rendez-vous qui est à venir?
On a un atelier d'écriture comme d'habitude, mais enfin qui ne réunira que 8 personnes parce que Covid, voilà.
Ouais. Est-ce qu'il faut s'inscrire, réserver les choses précédemment
Pour l'atelier d'écriture, forcément.
Oui.
Mais pour les autres, a priori, non. Ouais. Il faut se méfier parce que demain soir, on a fini d'être limité à 30 personnes, mais finalement, on aura droit à 60 personnes.
D'accord.
Enfin, dernière nouvelle, la préfecture.
Ouais, tout ça avec des distances adaptées.
Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Ouais, je redonne toutes les informations donc pour découvrir ce prochain cycle de Ciné-Légende à partir de demain et jusqu'au 22 octobre. C'est Habiter la forêt. Et on trouve le programme sur le site cinélégende.fr et je le mettrai en ligne à la page de l'émission L'Oreille Curieuse sur Radio G. Merci beaucoup Philippe.
Merci.
Et j'ai choisi un titre pour nous maintenir encore dans la forêt. On se retrouve après, toujours en mode cinéma.
Yeah.
étiez dans la forêt avec les scopes. Et vous êtes sur le 101.5, les ondes de Radio G, à l'écoute de l'oreille curieuse. Et on va maintenant retrouver la chronique cinéma de Margot, d'étoiles plein les yeux. Une chronique qui commence toujours très fort. Bonjour Margot.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et tous. Alors c'est avec grand plaisir que je reviens dans ce studio, même masqué, pour évoquer ce soir avec vous un film, récent ou plus ancien, à partir de quelques extraits.
Alors quel film tu as choisi pour ta rentrée radiophonique ?
Alors je dois dire que j'avais l'embarras du choix pour cette reprise. Port du masque, campagne électorale américaine agitée, crise économique, retour du mouvement Black Lives Matter, autant de sujets d'actualité passionnants avec lesquels faire résonner le cinéma. Mais je suis restée classique, ascendant marronnier du chroniqueur radiophonique, ah. Et j'ai choisi pour ma rentrée un La film rentrée. Sur l'école.
La rentrée. Bien vu, tu es sûre de ne pas te tromper comme ça.
Voilà. Donc le film dont je vais vous parler ce soir est réalisé par Bertrand Tavernier, un des grands manitous du cinéma français, ancien attaché de presse, écrivain, producteur de films, président de l'Institut Lumière à Lyon, et surtout réalisateur d'une œuvre éclectique ponctuée de succès populaires, comme La Princesse de Montpensier, Quai d'Orsay, Dans la brume électrique ou L627. Le film de ce soir est moins connu que cela, et il s'appelle « Ça commence aujourd'hui ».
On dirait un peu un slogan politique ce titre, non ?
Oui, c'est vrai. En fait, ça sonne comme le hollandaisque « Le changement, c'est maintenant ». Mais par anticipation, puisque le film de Bertrand Tavernier date de 1999. La résonance avec la politique n'est pas hors de propos, tant le réalisateur se réclame d'un cinéma engagé. Et c'est à la veine militante de son œuvre qu'appartient « Ça commence aujourd'hui », le film dont on parle ce soir, et qui suit pendant quelques mois le quotidien mouvementé de Daniel Lefebvre, instituteur et directeur d'école maternelle, dans un quartier très populaire près de Valenciennes. Alors Daniel, c'est Philippe Torreton, acteur fétiche du réalisateur, avec lequel il a tourné à plusieurs reprises. Voici comment Bertrand Tavernier introduit son film lors d'une avant-première en présence des figurants qui ont participé au tournage.
Je suis metteur en scène. Je ne suis pas quelqu'un qui ait des solutions. Je peux simplement montrer les choses qui me font mal, qui me bouleversent, qui me choquent. Je peux jeter un coup de projecteur dessus. Quand on fait ça, on espère avoir des résultats.
Confession d'un cinéaste engagé, donc. Écoutons maintenant la scène d'ouverture du film « Ça commence aujourd'hui ». Les bruits d'enfants sur l'écran noir du générique nous transportent directement dans une salle de classe.
1, 2, 3.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une grande maison, qui avait une grande maison.
Pendant que partant de l'instituteur, la caméra circule entre les enfants qui chantent assis sur un banc. Séquence ultra réaliste qui installe directement la tonalité documentaire du film et son projet de se situer à hauteur d'enfant. Le plan suivant se passe chez l'instit tôt le matin.
La durée d'un récit est comme la durée d'un rêve. On ne décide ni du moment où l'on s'endort, ni de celui où l'on s'éveille. Et pourtant on avance, on passe. On voudrait faire un geste. Toucher son personnage, avoir des attentions pour lui, lui prendre la main, par exemple. Et on est là, on ne fait rien. Toute la vie aura passé, on n'aura rien fait.
Cette voix off est celle de Daniel, l'instituteur. Il observe distraitement sa voisine depuis la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café à la main. Le plan suivant nous le montre courant vers sa voiture dans l'obscurité. Il est en retard et il dégivre rapidement son pare-brise. La voiture file dans les premières lueurs de l'aube et le titre apparaît enfin. Ça commence aujourd'hui. Cette première séquence qui alterne scène en classe où le personnage est filmé en plein travail et séquence où il est seul, en l'occurrence dans l'obscurité, est à l'image du film qui mêle approche quasi-documentaire et élan fictionnel. Tourné dans une vraie école au milieu de véritables petits élèves, c'est comme si le long métrage de Bertrand Tavernier se voulait la synthèse de deux films qui lui sont contemporains. Être et avoir, le fameux documentaire de Nicolas Philibert sur un instituteur en classe unique, et Rosetta, le non moins fameux film coup de poing et caméra à l'épaule des frères Dardenne. Ce qui est frappant dans cette scène d'ouverture, c'est qu'en un changement de plan, Daniel, le personnage principal, passe d'un état de passivité à celui d'homme en marche, qui court à sa voiture pour aller faire classe. Avec ces deux plans, le cinéaste nous dévoile son intérêt pour cet homme qui a choisi d'agir.
J'avais envie de parler de personnages qui me touchent et dont j'accepte le combat. J'avais envie de gens qui se battent, de gens qui plongent les mains dans le cambouis, qui s'écorchent à une réalité qui est difficile, mais qui ne l'accepte pas.
La réalité dont parle Bertrand Tavernier, c'est celle d'une région autrefois prospère grâce à l'exploitation minière, mais où désormais les terrils s'ouvrent pour les sorties scolaires et non plus pour le travail. Et en suivant les combats quotidiens de Daniel contre le manque de moyens, la coopération défaillante avec les services sociaux ou les rigidités de l'institution scolaire, le film esquisse un portrait poignant de ce territoire en crise.
Je ne suis pas partie d'une volonté d'attaquer l'éducation nationale. Je pars de points extrêmement concrets. Voilà ce qui me touche, une scène. Elle me touche non seulement parce que je la trouve bouleversante, mais aussi parce que je me demande, en tant que cinéaste, comment je filme ça.
Pour aborder cette question, écoutons maintenant un nouvel extrait du film. La scène commence dans un couloir de l'école. C'est l'heure de fermeture. L'institutrice de grande section, Madame Delacour, sort de sa classe avec une élève, pendant qu'à l'autre bout du couloir, Daniel placarde des mots face à sa classe.
Oh, c'est toujours comme ça quand on est pressé. Vous pouvez pas me la garder? C'est la petite Laetitia Henry. J'ai rendez-vous chez le médecin, ça fait deux fois que je reporte.
Allez-y.
Et je suis en retard. Tu seras sage, hein?
Allez, viens, ma grande. Mais je vois en attendant ma
maman. Merci.
Laetitia longe le couloir pour rejoindre Daniel.
C'est bien, lave-toi les mains, Laetitia.
Quittant la petite élève, la caméra repart sur Daniel, qui jette un œil à une affiche face à lui.
Mardi, il y a du couscous, Laetitia.
Hé, hey, monsieur Faible, elle est là.
C'est la femme de ménage qui parle. Elle désigne une silhouette frêle, bardée d'une poussette qui traverse la cour.
Laetitia, ta maman. Tu t'es essuyé les mains, ma puce?
Daniel s'approche de l'élève qui enfile son manteau.
Montez les tirettes. Parce qu'il fait froid. On y va?
Allez.
Au revoir, ma grande.
La fillette rejoint sa mère en courant à travers la cour. Daniel les salue, puis rentre dans l'école. La caméra reste à la porte, filmant la mère qui s'écroule quand sa fille la rejoint. La femme de ménage se précipite pour l'aider à se relever. Daniel les rejoint en courant.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, Madame Henry!
La femme s'échappe, laissant sa fille et la poussette devant la cour de l'école.
Madame Henry!
Daniel cherche à la rattraper, puis rejoint pensivement les enfants et la femme de ménage.
Attendez, là, elle était...
Ouais, vous avez pas vu, j'ai dû détourner la tête tellement elle sentait le vent.
Dans la poussette, le bébé se réveille.
Et on rentre.
Daniel escorte les enfants vers sa classe.
Les enfants dans l'œuvre de Tavernier sont toujours regardés dans leur rapport avec les adultes, très souvent pour montrer le mal qu'il leur est fait.
Cette observation du critique Jean-Dominique Nutens s'avère particulièrement pertinente dans le film « Ça commence aujourd'hui ». Le scénario, qui s'appuie sur le récit autobiographique de Dominique Sampiero, instituteur et directeur d'école maternelle, repose sur une succession de situations qui pointent la difficulté des adultes à assumer leur rôle de parents.
Tout est fictionnel, même si une grande partie de ces histoires sont vraies, justes.
Comme l'explique Bertrand Tavernier. La question du cinéaste demeure.
Comment je filme ça?
Car au-delà de ce qu'il dénonce, l'enjeu du film est de trouver la bonne distance par rapport à son sujet. Dans les séquences en classe, la caméra de Bertrand Tavernier se montre le plus souvent mobile, virevoltant d'un personnage à l'autre. Mais dans l'extrait que nous venons d'écouter avec Madame Henry, le réalisateur fait le choix d'un cadre plus statique, loin de la mer, à la porte de l'école, sans recourir au gros plan qui aurait pu renforcer l'intensité dramatique de la scène, au détriment du respect des personnages.
Puisque la mère ne voulait pas que Daniel la voie dans cet état, pourquoi moi, sous prétexte que j'ai une caméra, je m'arrogerais le droit de violer son désir même de personnage?
Conclut Bertrand Tavernier. Écoutons à présent un dernier extrait du film. Nous sommes avec Madame Delacour, l'institutrice de Laetitia, qui s'exprime face caméra dans sa classe vide, comme si elle s'adressait directement à nous, spectateurs.
Il y a 20 ans, j'avais 45 élèves. On ne se plaignait pas. 45 élèves, hein? La discipline, ça marchait. Les gamins, ils venaient à l'école toujours à l'heure. Et ils étaient propres sur eux. Et pourtant, c'est pas qu'il n'y avait pas de pauvreté. Ah, maintenant, c'est plus pareil. J'en ai 30. Je m'en sors pas. Non seulement ils arrivent en retard, mais ils viennent sales. Les parents, vous savez, sont souvent dans des situations désespérées. Il y en a tellement peu qui ont du travail. Les petits ne savent même plus ce que c'est, un métier. Et puis, surtout, on dirait qu'ils n'ont que moi à qui parler. Il y en a certains qui ne savent même pas qu'on peut parler à quelqu'un. Pour eux, les mots, ça sert à dire « j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif ». C'est de la survie.
Tous mes films s'appuient sur des doutes,
explique Bertrand Tavernier. Doute du cinéaste sur la mise en scène, mais aussi sur le pouvoir du cinéma de changer le monde ou le réenchanter. Doute également des personnages qui peuplent le film, assistantes sociales, élus ou enseignants, comme en témoigne ce dernier extrait, dont la mise en scène face caméra détonne par rapport à l'approche documentaire du film. Les mots que dit Françoise Bette, la comédienne qui incarne Madame de la Cour, sont ceux d'une véritable institutrice, retranscrits tels quels dans le scénario. À travers cette confession touchante, qui sonne toujours très juste 20 ans après la sortie du film, c'est comme si le cinéaste nous donnait un petit espoir. En s'attachant à dialoguer avec les enfants dès leur plus jeune âge, à l'école comme en famille, on travaille à faciliter leur avenir. On se quitte dorénavant avec quelques notes de la bande originale du film, composé par Louis Clavis.
Ça commence aujourd'hui est un film réalisé par Bertrand Tavernier et sorti en salle en mars 1999.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et en Blu-ray, éditeur Studio Canal. L'édition vidéo propose plusieurs bonus intéressants, notamment le commentaire audio du film par le réalisateur, ainsi qu'un copieux making-of sur le tournage de 6 semaines dans l'école maternelle qui s'appelle dorénavant l'école Bertrand Tavernier.
Merci Margot de nous avoir fait découvrir ce film. J'ai encore du temps pour vous dire au revoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle émission, la dernière de cette première semaine de rentrée pour l'oreille curieuse. Si vous avez envie de réécouter un moment ou même le best-of ou l'intégralité de toutes les émissions, ça se passe sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de l'oreille curieuse. Il y a aussi les podcasts des chroniques qui se mettent en place progressivement. Nous, on se retrouve lundi à 18h10 et je recevrai un nouveau journal local, La Topette, que vous pouvez déjà vous procurer chez votre marchand de journaux si vous voulez le feuilleter en écoutant l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit pour des encouragements ou nous allumer parce qu'on a mal prononcé un mot, il n'y a aucun souci, c'est possible. Ça se passe sur les réseaux sociaux de Radio G ou via prog.radiog@gmail.com par mail. Dans 10 minutes, oui Margot.
Je disais, vous pouvez même suggérer des titres de films dont vous aimeriez qu'on parle un soir, par exemple.
N'hésitez pas, en fait on rêve de vous lire. Voilà, vous qui nous écoutez. À 19h, dans quelques minutes, vous retrouvez Alpha Live pour leur toute première émission. Alors je vous le dis, mais je ne les vois pas encore derrière le studio, donc j'espère qu'ils sont bien là. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous laisse avec Annie El Khatib, Gonna Die Alone, c'est le nom du titre. Gonna harm me worse, it's a no. We don't
summer vacation. My Malibu always cruising right beside you. Radio on, you fell asleep in my arms. Love made one too many mistakes, always pretending that everything was okay. We'll be right back.
Yeah. The government's lie, God does not lie. Where governments change, God does not. And I'm through now. But let me leave you with one more thing. Governments fail. British government had a Union Jack. Perm Davies ruled the seven seas. All the way down to the tip of Argentina is a far place. But the British government failed. And the United States of America government, when it came to treating her citizens of Indian descent, fairly, she failed. The government gives them the drugs. They don't make them prisons. Passes a three-strike law. And then lost a...
Radio G 101.5 FM.